146e numéro de Wagon Livre, ce 22 janvier 2014 sur Radion, Yannick Petit au micro pour votre rendez-vous littéraire du mercredi sur votre radio locale. N'oubliez pas, je le dis en début d'émission, n'oubliez pas le coup de cœur de notre libraire partenaire Evelyne Levallois vers 21h50 pour réchauffer notre hiver. Et dans un quart d'heure, nous vous proposerons un entretien avec Diane Ducret. Vous vous souvenez peut-être du premier livre de Diane Ducret qui avait pour titre « Femme de dictateur », un livre qui a été traduit en 20 langues et qui a paru chez Perrin en 2011. Eh bien, l'an dernier, à Dijon, nous avons rencontré Diane Ducret qui, depuis, a écrit son premier roman dont le titre est en latin, Corpus Equi ou Corpus Equis, qui veut dire le corps du cheval. Et c'est un texte où elle mêle autobiographie, histoire, mythologie et érudition pour un très beau texte émouvant qui est un hymne à l'amour du cheval. C'est en tout cas vers 21h15. Mais d'abord, petit coup de printemps dans Wagon Livre, puisque nous allons parler du festival printanier et littéraire des Portes du Morvan qui se tiendra du 1er au 13 avril prochain dans le canton de l'Orme. L'Orme, c'est dans la Nièvre, hein, c'est la ville natale de Bachelin, d'Henri Bachelin, on peut le rappeler au passage. Et nous allons surtout, avec notre invité que je vais vous présenter d'ici quelques secondes, nous allons évoquer le jeu concours littéraire qui va être lancé dans le cadre de ce festival printanier des Portes du Morvan, jeu concours littéraire autour de Jacques Prévert. Et pour en parler, il est scénariste, metteur en scène, homme de théâtre, responsable de la compagnie du Globe qui est installée à l'Orme. Hervé Collin, bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir.
C'est avec grand plaisir. Alors parlez-nous d'abord de vous. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter brièvement pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Eh bien, je suis nivernais depuis 1996 et la compagnie du Globe depuis 1999. Voilà, nous venons tous les deux de Montreuil-sous-Bois du 93. Et depuis 99, donc, la compagnie du Globe fait, bon an mal an, une création par an qu'elle prolonge selon le succès qu'elle a. Donc, on est une compagnie rurale dont le territoire, par obligation, pas par choix, est la Nièvre Morvan. Voilà. Donc on a la compagnie, finalement, s'est construite à une identité de compagnie reposant sur le patrimoine et sur le territoire. C'est-à-dire que il faut dire que ma venue dans la Nièvre a été motivée par l'amour d'un écrivain, Jules Renard.
Ah oui, oui.
Voilà. C'est Jules Renard qui m'a fait venir dans la Nièvre et qui m'a décidé à acheter une maison dans le Morvan. Donc depuis, j'avais déjà créé un spectacle à Montreuil-sous-Bois à partir du journal de Jules Renard. Et je pense que personne ne l'a fait avant moi. J'ai créé 5 spectacles à partir de l'œuvre de Jules Renard. Sans monter poil de carotte.
Je me rappelle cette actualité l'année dernière pour l'avoir vue dans différentes éditions de quotidiens régionaux. Alors parlons de ce festival printanier et littéraire des Portes du Morvan qui cette année va marquer sa 2e édition. Alors c'est un ensemble de manifestations culturelles, de spectacles du 1er au 13 avril dans le canton de l'Orme.
Voilà. Oui, alors je dirais que ce festival aura plus d'arborescence que pour Queneau, parce que Jacques Prévert était non seulement poète, mais aussi scénariste, musicien, parolier. Et donc ce festival, sans fausse modestie, il va présenter une belle richesse, une belle arborescence, parce que il va y avoir ces séances de cabaret Prévert, où mon atelier théâtre présentera un texte de Prévert qui s'appelle Arbre. Hein, et on retrouve le mot arbre dans le jeu concours qui est associé à ce festival, un jeu concours littéraire où on demande, et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir, où on propose au public, hein, de tout âge, d'écrire une page dans l'esprit de Prévert, pas dans l'imitation, pas dans la parodie, l'esprit de Prévert que vous connaissez bien, d'écrire une page 21-29-7, une A4, à partir du mot arbre. Hein. Alors pourquoi arbre? Ben vous, bien sûr, Yannick, vous savez pourquoi. Puisque hein, nous sommes de l'Orme, nous sommes du Morvan, donc le mot arbre se justifie. Donc le concours est parti depuis quelques temps.
Et il faut envoyer ces textes avant le 8 février voilà. Prochain.
Il reste 3 semaines. Voilà. Et vous pouvez en envoyer jusque 3 par personne. Et alors bon, tout est possible. La chose la plus importante, c'est d'y prendre du plaisir. Comme je crois que Prévert écrivait par plaisir. Même s'il travaillait dur, je pense. Mais voilà, faites-vous plaisir.
Alors, à partir de quel âge?
Oh, ben non, oh, peu importe.
À 6 ans, on peut écrire son petit texte.
Voilà. Il y a des prix. Hein, donc, les prix pour des sommes quand même qui ne sont pas négligeables. Mais ce sont donc des bons d'achat pour des librairies. Hein, les premiers prix, c'est 150 euros. Vous avez 13 prix qui sont partagés entre deux catégories, les plus de 16 ans et les moins de 16 ans. Et un jury de 7 personnes, dont le président est Gérard Gauthier, l'éditeur des éditions de l'Armançon, décideront de ces 13 prix et se réuniront le 15 février à l'hôtel Perrault à l'Orme pour faire comme les Goncourt, passer une journée là pour décider de la nomination des textes.
Donc, rappelons bien, c'est un concours, jeu littéraire ouvert à tous. Il faut en tout cas s'inspirer de Prévert, être en tout cas dans l'esprit de Prévert, donc un esprit, bien sûr, créativité, audace, humour, ironie aussi, calembour, acrobatie langagière, tout est permis
ludique,
finalement
ludique,
grâce à Prévert.
Ludique, hein, voilà. Il faut s'amuser.
Alors, il faut renvoyer les textes d'une page format A4 avant le 8 février prochain, soit on l'envoie. Alors, si on est moderne, on l'envoie par mail, Hervé
voilà.
Collin, dans ce cas.
Sous Word.
D'accord. Hein,
pas ODT, sous Word, c'est bien.
L'adresse mail,
c'est pas difficile. La Compagnie du Globe, en entier, tout attaché, @gmail.com.
Facile. Ou alors par voie postale.
Encore plus facile, boîte postale 8, 58-140, l'Orme, à l'adresse La Compagnie du Globe. Pour toute explication, nous sommes joignables au 03 86 62. Oh là là, ça y est, je ne sais même plus mon. 22, pardon.
86 22 63
02.
Ou alors
06,
sur le portable.
06 88 70.
Non, 06 88 18 70 10. Hervé Collin, il va falloir réviser vos numéros de téléphone.
Voilà. On les redira à la fin.
À cette date du 22 janvier 2014, combien de textes déjà reçus? On peut le dire ou ça
oui,
reste confidentiel
sûr. Il y en a une petite cinquantaine. Voilà.
Alors, peut-être que je vais vous demander de nous lire quelques textes. Alors, je ne sais pas, des textes de Prévert, des purs textes de Prévert, ou déjà quelques textes de candidats qui ont osé se lancer dans ce jeu concours littéraire.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Peut-être déjà du Prévert, du vrai Prévert.
Peut-être le début du texte qui s'appelle « Arbre » de Prévert.
Volontiers, hein? Hervé Collin.
Donc, c'est un livre très joli, hein? « Arbre » de Prévert, qui est sorti en 1967 et qui a été illustré. C'est un jeu entre la plume de Prévert et le crayon de Ribemont de Seigne. Hein, donc c'est un livre de chez Gallimard où d'un côté vous avez des textes et de l'autre côté, pas sur chaque page, vous avez des très belles illustrations de Ribemont de Seigne. Et d'ailleurs, nous reprenons un peu ce système-là puisque vous savez que nous, on donnera ces textes arbres, hein, mon atelier théâtre, donnera ces textes mais en les devant les œuvres de trois plasticiens. Hein, le public sera amené donc ce cabaret Prévert, ce sera une visite d'une exposition avec trois plasticiens du Morvan. Marianne Dupré, aquarelliste, Yves Niveau, photographe, et Michel Le Goff, sculpteur sur bois. Donc nous emmènerons le public voir ses œuvres en quatre ou cinq stations et nous donnerons ce texte. Vous voyez, c'est la richesse, l'arborescence du projet. Vous voulez que je vous lise le début d'Arbre de Jacques Prévert ?
Volontiers, Nicolas, bon, nous vous écoutons.
J'espère que les auteurs derrière ne seront pas intimidés. En argot, les hommes appellent les oreilles des feuilles. C'est dire comme il semble que les arbres connaissent la musique. Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien. Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains? Les arbres parlent arbres comme les enfants parlent enfants. Quand un enfant de femme et d'homme adresse la parole à un arbre, l'arbre répond, l'enfant l'entend. Plus tard, l'enfant parle arboriculture avec ses maîtres et ses parents. Il n'entend plus la voix des arbres, il n'entend plus leurs chansons dans le vent. Pourtant, parfois une petite fille pousse un cri de détresse dans un square de ciment armé d'herbes mornes et de terre souillée. Est-ce la tristesse d'être abandonné qui me fait crier au secours ou la crainte que vous m'oubliez, arbre de ma jeunesse pour de vrai? Dans l'oasis du souvenir, une source vient de jaillir. Est-ce pour me faire pleurer? J'étais si heureuse dans la foule verte de la forêt, avec la peur de me perdre et la crainte de me retrouver. N'oubliez pas votre petit ami, arbre de ma forêt.
Voilà. Merci Hervé Collin. Peut-être un texte qui vous est parvenu d'un candidat prix du Festival printanier et littéraire des Portes du Morvan.
Eh bien, je vais peut-être vous lire le premier que j'ai reçu, que nous avons reçu à la Compagnie du Globe, qui est inspiré du chapitre 9 du Livre des Juges, qui est dans la Bible. Ça s'appelle « Les arbres qui se cherchaient un candidat au présidentiel ». Un jour, les arbres se mirent en chemin pour l'université d'été du Morvan, où ils devaient désigner leur candidat au présidentiel. À leur arrivée, les partisans du cerisier lui dirent « Nous avons constitué un noyau pour te soutenir, sois notre candidat ». Quoiqu'un peu dur de la feuille, le cerisier se mit à chanter sur le ton du merle moqueur, « Le temps des cerises ». Mais lorsque tous applaudirent, il leur dit « Croyez-vous que je vais renoncer à mes cœurs de pigeon pour aller me balancer au-dessus des arbres et me quereller avec les autres pour des queues de cerises? J'ai bien trop à faire avec mes griottes et mon kirsch. Allez donc chez mon ami l'olivier et sollicitez-le de ma part. » Voilà tout le monde chez l'olivier. « Sois notre candidat, » lui dirent-ils. L'olivier resta debout. Il leur répondit « Faudra-t-il, à cause de vous, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres, renoncer à fournir les rameaux de la paix aux milliers de colombes, renoncer aux onguents des malades et aux plats succulents sur les tables du sud? Allez donc trouver le sapin, qui sent si bien son âge. Cela lui fera de ce monde une sortie honorable. Président des arbres. » Alors, de fil en aiguille, on se joignit aux partisans du sapin. On lui dit « Allez, lance-toi, tu as un succès fou dans les médias. » Mais le sapin, craignant une fois élu de passer son temps à se faire enguirlander, leur répondit qu'il était bien trop occupé par Noël. « Croyez-vous que je vais renoncer aux enfants qui sont en ce moment dans leurs petits souliers pour aller me balancer au-dessus des arbres ?»« Laissons-le, » dirent les partisans. « Il est complètement illuminé. » Là, de temps de refus, le comité directeur s'est réuni pour examiner la situation. Le saule était toujours aussi pleureur, d'autres militants de toujours voulaient faire tomber des chaînes. On pensa un moment à ce vieil aristocrate d'arbre généalogique, un arbre qui avait de la branche, c'est sûr, mais peu en cours chez les gens du peuplier, donc disqualifié. Les responsables de la culture s'interrogeaient sans parvenir à se décider. Être ou pas être, sur un ton théâtral. D'autres étaient complètement noyés, comme ils disaient. Tout ça pour se faire gauler, retorquaient leurs adversaires. Comité réseau club se multipliait sans résultat. De Guerlas, ayant passé en revue sans succès toute la gent arboricole et forestière, il ne resta en lice que le buisson d'épines. Le trésorier général fit passer un tronc pour récolter de quoi assurer les frais de sa campagne. Et tous les arbres de dire au buisson d'épines « Allez, viens régner sur notre république ». Piqué au vif, il répondit « Puisque vous m'avez jugé le meilleur de vous tous, je cède à votre insistance ». Et le buisson d'épines fut déclaré candidat par acclamation dès le premier tour, car il en avait plusieurs dans son sac.
Merci Hervé Collin. Donc un texte écrit par un candidat à ce jeu concours littéraire. Je rappelle donc les textes à envoyer sous format Word par mail d'une page dans l'inspiration ou dans l'esprit plutôt de Prévert. C'est avant le 8 février prochain. On l'envoie par mail à lacompagnieduglobe@gmail.com ou alors par voie postale à Lacompagnie du Globe, boîte postale 8 58140 Lorme. Pour plus d'informations, on contacte par téléphone Hervé Collin qui était ce soir devant notre micro au 03 86 22 63 02 ou alors sur le portable au 06 88 18 70 10. Hervé Collin, merci pour ces informations.
C'est moi qui vous remercie.
Première petite pause musicale dans l'émission et ensuite vous retrouverez l'entretien avec Diane Ducret.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Bonsoir Diane Ducret.
Bonsoir, merci.
Merci à vous d'être devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion pour Corpus Equi. Equi, comment doit-on le prononcer, le titre de ce dernier ouvrage?
Pas de chichi, suivant que l'on soit, que l'on parle latin ou pas, on peut l'appeler Corpus Equi ou Corpus Equi, bien évidemment, le corps du cheval.
C'est aux éditions Perrin. J'aimerais justement qu'on s'arrête d'abord sur le titre de ce qui est un roman. Alors, moi j'ai été un peu surpris qu'on annonce votre ouvrage comme un roman, parce que c'est tantôt un essai,
une réflexion à travers la mythologie, les légendes, le parcours personnel, donc des éléments autobiographiques, cette célébration du cheval, cet hymne à l'amour du cheval dont on va parler avec vous ce soir. Alors, Corpus Equi rappelle le Corpus Christi. Alors, je me suis dit que, bien évidemment, vous aviez fait le choix, peut-être iconoclaste, de retenir cette formule, d'autant plus que la couverture dorée du livre rappelle peut-être aussi, disons, les objets ostentatoires de l'église, l'autel ornemental. Donc j'ai trouvé que c'était un livre baroque.
Ah ben bravo, c'est un beau compliment et je dois dire que c'est assez assumé. En effet, c'est délibérément que j'ai choisi ce titre en référence à Corpus Christi, car de quoi s'agit-il ? Il s'agit, donc, bien sûr, c'est un roman personnel, autobiographique. C'est l'histoire d'une jeune femme promis un grand destin équestre, promis à rejoindre l'équipe de France d'équitation de saut d'obstacle, qui est victime d'un accident. Le cheval meurt et on lui annonce à l'âge de 15 ans qu'elle ne remarchera jamais. Et elle va mettre 15 ans, non seulement à se remettre de cette perte inaugurale, qui est sa première tragédie, et surtout à se remettre physiquement en état de marche, dirait-on, ce qui ne va pas de soi dès lors que l'on a été touché dans sa chair. Donc Corpus Christi et Corpus Equi, c'est bien sûr parce qu'il s'agit ici de chute originelle et de rédemption, de résilience, dirait-on aujourd'hui, si l'on est amateur de Boris Cyrulnik. Mais en tout cas, voilà, il y a la passion au sens premier et au sens de passion du Christ. C'est un livre de chute, de passion et de résurrection.
Et la chute, d'ailleurs, c'est peut-être ce péché originel dès l'enfance de vouloir plutôt monter sur un cheval plutôt que de choisir, vous parlez de cette trilogie, le catéchisme, le tutu et le pianoforte.
J'y ai eu droit aussi. Néanmoins, j'y ai trouvé moins d'intérêt qu'en effet tremper le soulier de verre dans le crottin.
C'est
Bellérophon. C'est un petit peu, je crois, le vice de tout homme que de vouloir peut-être aller trop haut, en tout cas d'avoir voulu défier la gravité, sauter des obstacles, vouloir être un petit peu immortel, échapper aux lois tant de la gravité que celle des hommes sur le dos d'un cheval. Pour ceux qui ne sont pas cavaliers, c'est vrai que, songeons juste un instant à tout ce que le cheval a représenté dans la mythologie. Il est celui qui transporte les âmes dans toutes les mythologies. C'est l'animal psychopompe par excellence. Mais il est aussi celui qui a fait naître les grands héros conquérants qui vont construire les empires, qu'il s'agisse d'Alexandre le Grand ou d'Hernán Cortés le conquistador. Beaucoup, ils sont très très nombreux. Et donc finalement, c'est comme si le cheval était le partenaire privilégié des désirs bien trop grands qu'ont les hommes parfois.
C'est votre foi, vous avez foi dans cet animal, c'est votre religion. Vous parlez d'ailleurs d'un culte inhumain du cheval, et vous l'écrivez, j'étais converti, et il y a ce pendant un peu diabolique, j'ai le démon du cheval qui trotte en vous. Alors on parlera de Zascandil, qui est le cheval marquant de votre adolescence et jeunesse. Vous dites de Zascandil, ce cheval, il était le dieu de mon jeune instinct, refusant toute conversion au monde des hommes. Et on a l'impression justement que l'équitation a été pour vous une façon de ne pas vouloir vous conformer peut-être au travers ou à la médiocrité de la société des hommes.
Oui,
c'était votre culture.
C'est
à
vrai.
Vous.
Alors, bien sûr, ici, il s'agit donc de Zascandil qui cristallise un petit peu toute cette, on va dire, cette rébellion à la fois adolescente et à la fois finalement très humaine. C'est peut-être aussi un premier geste d'adulte que de refuser les compromissions excessives et de s'adonner à une certaine facilité de vie que la vie moderne nous pousse dans la société des loisirs à rechercher l'immédiateté, la facilité, l'art équestre, bien sûr, qui n'est ici employé que comme image de la liberté. Un Zascandil, c'est tout simplement l'image des premières grandes passions que l'on a en tant qu'enfant, qui sont parfois très révélatrices de ce que nous serons plus tard. Cela aurait pu être un homme, un continent, une nation ou un empire. Ici, il s'agit d'un cheval, tout simplement parce que le cheval, donc, à la fois symbole de la liberté et symbole de notre propre instinct, de notre découverte à notre part d'animalité, à notre part de nature aussi. Et quoi de plus indomptable que cet être quand même qui fait 700 kilos, je le rappelle, Donc,
40 kilos pour la cavalière et 600-700 kilos pour le...
600-700 pour le cheval, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et rappelons-le, c'est une vraie discipline qui a fait quand même les grandes heures de la France, qui est première nation à avoir créé l'art équestre et à en avoir fait véritablement l'élément de formation de ces élites, de ces jeunes gens bien. C'est un travail fait de difficultés, comme l'art, comme la danse, ou comme tout art d'ailleurs que l'on pratique avec foi, on va dire, et discipline. Cela demande véritablement beaucoup d'années, beaucoup de temps et beaucoup d'écoute à la fois de soi-même, de ses instincts. On ne peut pas se mentir face à un cheval et on ne peut pas mentir à l'animal. On ne peut pas l'approcher avec une intention qui serait mal exprimée. L'animal le détecte et peut vous mettre en danger. C'est une éducation à la réalité, à la vérité aussi des sentiments humains.
Et donc il y a des codes pour échanger avec l'animal. Et vous dites un claquement de langue est un sésame pour l'oreille du cheval.
Oui, c'est vrai, il y a des codes. C'est un peu comme si on développait un langage de sourd et muet, voyez, parce que c'est une relation très riche, mais sans mots. Et ça fait du bien, parfois.
Mais c'est une relation amoureuse aussi.
Mais c'est une relation, oui.
Vous cite, Diane Ducré, je vous prie de m'excuser, je vous interromps. Page 40, vous vous dites « orgueilleuse de ne réserver vos baisers qu'aux naseaux » qui vous renifle sans rien vous demander et qui vous emporte chaque nuit vers d'autres temps. Et alors, vous écrivez un peu plus loin à propos du museau du cheval. Et je peux concevoir, moi par exemple, je suis toujours en admiration devant la truffe de ma chienne.
Ah,
je trouve ça d'une grande beauté. Et j'ai déjà caressé le museau d'un cheval, cette espèce de cette pilosité, ce duvet gris ou blanc sur le... Et vous écrivez, la profusion de l'univers n'existe plus face à cette chose la plus douce de la création. Cette chose la plus douce de la création, ne nous trompons pas, ce sont les naseaux du cheval, et notamment de Zaskandie.
Mais oui, c'est vrai que c'est un livre d'amour, surtout. Voilà, on parlait de chute, de passion,
mais vous provoquez
d'intention.
Un petit peu aussi.
Oui, bien
quand
évidemment.
Quand vous dites, aucune main d'homme n'égalerait jamais cette caresse originelle. Et un peu plus loin, page 114, j'avais doucement enlevé son licol et caressé son encolure monumentale à faire pâlir le plus aguerri des culturiste. On sourit, on se dit, elle s'amuse bien.
Oui, absolument. C'est à la fois la vue d'une jeune fille qui rêve de pureté et d'amour idéal dans lequel la sexualisation naissante des corps de ses camarades la choque, la surprend en tout cas, ou dont elle ne se sent pas prête à participer. Moi, je ne me sentais pas prête à participer à cela. Et dans cette relation avec le cheval, vous avez ce corps sublime d'athlète qui est dans une relation totalement dénuée de ce genre d'ambiguïté et qui est quand même millénaire et digne. Partir au galop sur un cheval, je vous assure, vous êtes semblable à un dieu.
On en reparle dans quelques instants. Nous avons ce soir le plaisir donc de recevoir devant notre micro Diane Ducré. Elle évoque pour nous cette passion pour les chevaux. Elle signe aux éditions Perrin un ouvrage qui a pour titre Corpus Equi, sur lequel nous tentons de porter un éclairage tout particulier avec son auteur. Première escale musicale, rendez-vous dans une poignée de minutes. On écoute Étienne Dao, Weekend à Rome.
Weekend à Rome pour la douce. curseur de vivre. Et pour le fun, puisqu'on déjeune, week-end rital.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi à 21h sur votre radio locale, et ce depuis novembre 2010. Après s'être penché sur l'histoire des épouses et maîtresses des dictateurs, Diane Ducret nous fait ce soir l'amabilité de nous consacrer un peu de son temps. Elle évoque à notre micro Corpus Equi, son dernier ouvrage disponible aux éditions Perrin, ouvrage sorti en septembre 2013. Alors Diane Ducret, revenons à Zascandil, à cette célébration de la musculature et du corps de cet animal qui devient presque œuvre d'art. Vous parliez d'ailleurs du syndrome de Léonard de Vinci.
Oui, c'est vrai, qui cherchait à représenter le cheval parfait, donc qui s'est mis en tête de représenter, lui qui arrivait parfaitement à représenter les corps humains, on s'accorde là-dessus quand même facilement, s'est mis à parcourir toutes les écuries de Florence qu'il trouvait pour pouvoir avoir le cheval parfait, l'étalon parfait à représenter, et il ne l'a jamais trouvé. Il a représenté des croquis, des dizaines de croquis sans jamais y parvenir. Ça a été une de ses grandes frustrations et le seul objet du vivant qu'il n'a jamais pu saisir.
Adolescente, finalement, au lieu de vous occuper de votre chevelure, vous vous préoccupez beaucoup plus du pelage, de la crinière du cheval. Vous avez vraiment utilisé des lotions que l'on trouve dans le commerce pour les humains que vous avez véritablement appliquées à Zascandil.
Alors oui, c'est vrai, c'est une anecdote assez
amusante. Donc les crèmes hydratantes et lotions antipelliculaires.
Oui, c'est vrai, je piquais à cette époque-là la crème hydratante assez coûteuse, je dois dire, anti-âge de ma grand-mère pour aller l'appliquer justement sur les naseaux dont nous parlions tout à l'heure afin qu'il puisse rester assez inaltéré, on va dire, par l'œuvre du temps. Je voulais surtout pas qu'il s'abîme, et donc l'action anti-ride qui était promise sur l'emballage me semblait tout à fait adaptée.
Pour un compère ongulé,
mais
comme,
oui.
comme vous le dites. Vous évoquez, dans votre roman Corpus Equi, vous parlez, et c'est dans une tradition populaire d'Amérique centrale, il est question du nagual, c'est-à-dire un animal qui est un emblème spirituel. Vous pourriez expliquer, Diane Ducret, ce qu'est le nagual ? Le cheval est votre nagual, encore
oui.
maintenant.
En fait, le nagual, c'est l'animal compagnon, le compagnon esprit. C'est-à-dire que chaque être humain, dans cette croyance précolombienne, à sa naissance, se voit attribuer l'esprit d'un animal qui naît en même temps que lui, un animal qui existe donc concrètement sur Terre. Cela peut être n'importe lequel. Et ces deux êtres seront liés toute leur vie durant. Dès lors que l'être humain en a besoin, il peut prier l'esprit de son nagual, il peut prier cet animal qui existe quelque part sur Terre pour qu'il lui donne certaines de ses qualités. Si c'est un puma, je ne sais, sa rapidité peut-être, si c'est un cheval, sa force, etc. Mais si l'animal totem, si cet animal référent meurt, alors l'être humain meurt aussi. Et donc, on attribue à ce moment-là la mort ou la maladie d'un être humain à la mort de son animal compagnon, de son animal totem. Et je trouvais que c'était une thématique très belle. C'était le couple que j'ai formé avec ce cheval qui a bercé mon adolescence, qui est décédé à peu près au moment de mon accident. Mais il se trouve que j'y ai survécu.
Ce cheval, c'est aussi, vous l'avez dit, l'expression d'une liberté, d'une volonté d'indépendance d'adolescente qui s'affirme contre peut-être une éducation un peu trop bourgeoise,
oui.
vécue comme un carcan à l'époque, le cheval offrant liberté, ivresse.
Absolument, mais je crois que c'est de tout temps d'ailleurs qu'il a servi. Penser à Sissi, impératrice, et ses longues galopades, ou à Catherine de Russie, bien évidemment, délaissant les tracas de la cour et les pressions, les carcans écorcés, en allant galoper à cheval. C'est une liberté folle, en effet, et même si l'on n'est pas cavalier, on a tous vu ces toiles ou ces films où on voit ces personnages passer au grand galop sur des chevaux qui ont l'air ivres. Et on en vit pendant quelques instants cette sorte d'ivresse comme ça, où on n'appartient plus au monde puisqu'on n'est plus sur Terre.
Puisqu'il s'agit d'un roman, la jeune femme, l'héroïne du roman, à mon avis, elle vous ressemble un peu, ne semble pas heureuse dans sa famille. Est-ce que votre enfance a été un peu marqué. Vous parlez d'étrange famille qui n'en est pas vraiment une ou qui n'a jamais voulu en être une. Est-ce qu'on est dans la fiction ou est-ce que là, c'est la part personnelle de Diane Ducret qui s'exprime ?
Disons qu'on est tous notre personnage. C'est vrai que c'est un roman autobiographique. Donc jusqu'à quel point Flaubert était-il Madame Bovary, je ne saurais le dire. J'ai eu, je crois, comme beaucoup d'entre nous, quelques heures familiaux lorsque j'étais plus jeune. Je n'ai pas eu la chance d'être élevée par mes parents. J'ai été adoptée et donc peut-être aussi le monde animal me semblait être celui de l'instinct et de l'immédiateté où il n'y a pas de mensonge. Nous en parlions tout à l'heure. Vous faisiez référence à la truffe de votre chienne. Je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant dans la relation que l'homme entretient avec les animaux, comme quelque chose qui ne ment pas. Et dans le regard d'un animal, on se retrouve nu. C'est une phrase de... Alors, je crois qu'elle est de Derrida. Si l'un de vos auditeurs me donne tort, qu'il écrive, je lui paierai un café pour je lui offrirai un livre. Il dit « L'animal nous regarde et nous sommes nus devant lui. » Et penser peut-être commence par là. C'est, je crois, de Derrida dans « L'animal que donc je suis ». Et c'est vrai, face à l'animal, nous sommes nus, il n'y a pas de mensonge. Et lorsque, suite à des événements familiaux dramatiques, vous doutez un petit peu de ce qui vous entoure, en effet, c'est assez rassurant, l'animal.
Vous parlez de l'animal et de la nature. Je me souviens d'une conversation ici avec Paul Constant.
Ah,
et Paul Constant, nous avions parlé des animaux qui sont très présents dans ses romans. Et elle a grandi aussi avec un petit singe sur son épaule en Afrique. Enfin, c'est bon. Paul Constant disait que l'animal, c'est la nature qui n'a pas dégénéré.
Oui.
On peut dire la même chose. C'est tout à fait valable pour
absolument,
le cheval.
Absolument, absolument. Je suis absolument d'accord avec elle. Et je regrette de ne pas avoir pu assister à cette conversation. J'aurais ajouté de l'eau à son moulin. Vraiment.
Diane Ducret, si vous le voulez bien, on marque une nouvelle petite pause musicale. On vous retrouve...
Ça dépend, qu'est-ce qu'on écoute ?
Est-ce que c'est bien ou mal ? On écoute Zaz,
bon, ça va.
La fée, et on vous retrouve toujours avec le démon du cheval dans vos veines. Nous sommes avec Diane Ducret pour Corpus Equi.
Moi aussi, j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre. Et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi, qui voudrait voler mais ne le peut pas. Do do do.
Il ne s'agit pas de se montrer trop cavalier ce soir avec notre invité, de peur de craindre ses ruades ou sa bombe. Non, non, je vous rassure, Diane Ducray est tout à fait charmante. Elle n'est que gentillesse et mansuétude, et elle qui a pourtant une méfiance certaine pour la société humaine, eh bien, elle se délecte de ses souvenirs d'un animal exceptionnel qui est resté, je pense, dans votre tête, dans votre cœur, ce Zascandil Déanciles, on le prononce à l'espagnol.
Oui, absolument.
Il avait des origines allemandes, germaniques et espagnoles, hein, c'est bien cela. Et nous sommes toujours à bord de Wagon Livre. Diane Ducray, dans Corpus Equi, vous expliquez effectivement qu'aux origines, d'ailleurs le roman s'ouvre sur une évocation des origines de l'Éden, où effectivement le premier animal qui aurait été offert à l'homme, c'est un cheval pour lui offrir un peu de liberté. On reste sur ce thème incontournable de la liberté.
Parce que c'est vrai que je rappelle à tous ceux qui ne sont pas cavaliers ou ceux qui n'ont pas d'affection particulière pour les chevaux, ce n'est pas un livre qui traite uniquement du cheval. Le cheval ici y est vraiment l'image de quelque chose de beaucoup plus grand, à savoir cette aspiration incroyable et incommensurable de l'homme pour la liberté et cette capacité à affronter les tempêtes, les tourments, à être mis à genoux par la vie et à être capable de se relever malgré tout. C'est vraiment ça le sens de Corpus Equi, c'est-à-dire que grâce à cette connaissance du corps du cheval qui m'avait donné une liberté folle dans l'enfance, j'ai pu me relever de cet accident et de ces 15 ans de handicap par toujours cette foi, cette croyance que je retrouverai cette liberté-là et que je retrouverai cette mobilité-là.
Et ce qui est formidable, c'est que vous rappelez que les peintures rupestres ne représentent pas des hommes, mais représentent des animaux et notamment des chevaux. C'est-à-dire qu'en fait, le cheval a été peut-être le miroir de l'homme.
Oui, c'est un phénomène assez incroyable. C'est vrai que c'est un des premiers animaux que l'homme ait représenté dans les grottes, bien avant de se représenter lui-même. Moi, je trouve ça merveilleux que l'homme n'ait pas pensé à se représenter lui-même dans ces grottes. Il a représenté, au tout début bien sûr, ce qu'il voyait et surtout les animaux qui le fascinaient. Le cheval en premier lieu, bien que ce soit un des derniers qu'il ait domestiqué pourtant. Comme s'il fallait qu'il reste indompté et libre pour finalement continuer à avoir son pouvoir de fascination. Mais il y a une très belle phrase dans l'Ancien Testament. Moïse dit aux Hébreux comme cela, il les met en garde contre cet animal. Il leur dit « Tenez-vous éloignés des chevaux, n'approchez pas cet animal, car dès lors que vous l'aurez monté, il fera naître en vous d'irrésistibles désirs de conquête. » Et vous serez incontrôlable.
Et vous en parlez justement, vous dites que bien souvent, et peut-être que Hernán Cortés, quand il apparaît pour la première fois face aux tribus mayas...
De Tayasal aux mayas, absolument.
Eh bien, finalement, il conquiert ces peuples, plus par la puissance de sa monture, ces peuples pensant que c'est un être hybride.
Bien sûr,
on rejoint
le
thème des centaures.
Oui, vraiment, c'est un centaure sacré. C'est vrai que la conquête du Nouveau Monde s'est faite dans les cités en maya, en tout cas sous l'égide d'Hernán Cortés, sans une goutte de sang versée, tout simplement parce que les mayas le voyant arriver à cheval, les bruits de sabots sur la pierre, sur la roche, faisant un bruit du tonnerre, se disaient « mais cet homme est un dieu pour maîtriser une telle bête, un tel animal ». Et d'ailleurs, il va leur offrir ce cheval qui s'appelle Morzillo. Il y a une anecdote assez amusante là-dessus qui est historique, c'est que le cheval étant blessé, il ne pouvait pas faire donc le trajet retour. Il l'offre à ces êtres qui n'ont jamais vu un cheval de leur vie. Ils vont en faire le dieu de leur cité, de leur village, mais manque de peau justement, ils veulent bien nourrir leur dieu, donc ils lui offrent des ragoûts, des mets absolument trop riches pour cette pauvre bête qui finit obèse et qui finit par mourir.
Il y aura l'accident, chute de cheval, accident grave, puisque l'héroïne doit aller se faire opérer aux États-Unis. Donc, on imagine qu'en France, certes, si on est très fort dans la domestication du cheval, on n'est peut-être pas aussi doué en chirurgie. Et pourtant, j'ai relevé cette phrase, « Sur son dos, je me sentais toujours protégé ». Donc, on n'est pas toujours protégé sur un cheval,
non.
On est à l'abri de rien.
Absolument.
Et donc de la chute. Alors là,
oui, la chute. Même Jésus n'est pas protégé par son Père à un moment, même s'il se sent protégé, et pourtant, il y a la passion. Voilà, c'est comme si finalement, pour devenir quelque chose de plus grand et délivrer son message, il devait passer par là. Eh bien, de la même manière, il faut tomber de cheval Il faut même tomber plus bas que les autres hommes. Marcher pendant près de 15 ans avec deux cannes, en effet, c'est assez... je le recommande à peu de personnes. Comme si, voilà, pour grandir plus encore et développer peut-être d'autres qualités de compréhension et d'une certaine vision du monde, voilà, peut-être sur la compassion, basée sur la compassion, il fallait en passer par cette passion, par cette chute.
Diane Ducret, on se retrouve dans quelques minutes, s'il vous plaît. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que dans les 10 dernières minutes de notre émission, ils retrouveront le coup de cœur de notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, de la librairie L'Autre Monde, une librairie indépendante installée à Avallon. Corpus Equi, on en reparle dans quelques minutes avec Diane Ducret qui est ce soir devant notre micro. Richard Gottener, lui, avait une passion folle pour son chien, ça a donné le Yuki. Alors on écoute le Yuki. Et on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans quelques minutes avec Diane Ducret.
Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Tikiki? Et où il est le pépère au Wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa? Le bon pépère que son kiki préfère. Et sa mémère alors, et sa mémère, où elle est la mémère à sa nounouche? Elle était où, hein? Sa mémère, qui donne du susuc avec la boubouche. Il était où, hein? Le Yuki. Il était où le gentil Titoutou? Il était où, hein? Le Yuki. Le gentil Titoutou. Il était où? Où c'est qu'il était son papy et son pépère? Où c'est qu'était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie?
Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça?
Il était là le bouchou Kikichou. Il était là le plus beau des cookies. Il était là qui? Le beau poupou. Le plus joli de tous les bonouki. Et c'est à qui tout ça? C'est à Kiki. C'était les papas de poilu. Il a que, hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupignou? À qui c'était, hein? Le beau Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le Kiki. Il est à qui le gentil Titoutou? Il est à qui, hein? Le Yuki. Le gentil Titoutou, à qui c'est
qui?
C'était pas à son papy, à son pépère, alors à qui il était le Yuki si c'était pas à sa mamie?
À qui, hein? À qui? À qui, hein? À qui?
Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là le vilain! Kiki a mangé des bouts de caca. Non mais des fois, oh vilain tout plein. Non mais Kiki, qu'est-ce qu'il m'a fichu ça? Veux-tu venir ici gros dégoûtant? Et pas bouger, assis debout couché. À son panier, oh le méchant. Va te coucher, son pépère est fâché. Kiki t'a vu pépère, est en colère. Le pépère a Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on n'est pas malheureux. Le plus cucu, hein, c'était qui? Mais qui c'est idée de le plus neuneux? Le plus neuneux, hein, c'était qui? C'est qui, c'est qui le plus cucu des deux? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est
Elle s'est fait connaître avec l'immense succès de Femme de dictateur, un best-seller traduit dans plus de 20 pays, Diane Ducret,
c'est vrai,
bien cela?
C'est vrai.
Un grand succès. Il y a d'ailleurs un c'est marrant parce que j'y ai pensé après coup. Il y a un grand, grand prix qui est le prix de Diane.
Oui, c'est vrai.
Le prix de Diane Ducray, voilà, c'est le prix à payer. Corpus Equi, roman en très grande partie autobiographique qui mélange l'essai, la narration, la philosophie, l'histoire, l'érudition. Et je voudrais alors lire le début du chapitre 11, où justement vous, vous rappelez la fragilité de l'être humain par rapport à l'animal. C'est aussi une façon de nous ramener un peu à la modestie. Parce qu'il y a deux parties dans le roman. Il y a une partie, j'allais dire, narrative, et puis une partie, la deuxième partie, presque baudelairienne, de souffrance, de mal-être, où justement il y a la mort de l'animal qui a eu une maladie des viscères, me semble-t-il, de la même manière que le cheval du cirque, enfin de Zingaro,
Bartabas. Absolument.
Et il y a ce deuil, cette espèce de spleen qui envahit complètement l'héroïne, expérience que vous avez connue. Et puis il y a le passage de Biarritz à Paris, quand bien même vous menez de belles et solides études, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place dans la ville qui écrase, et qui oui. entrave. On est très loin de la liberté et du cheval Pégase.
Absolument.
Alors, ça m'embête de lire le début du chapitre 11. Juste pour vous faire plaisir, Diane Ducray, et également pour faire plaisir, je l'espère, à nos auditrices et auditeurs. Les dieux, lorsque nous nous approchons un peu trop d'eux, nous veulent boiteux, bègues ou bossus. Ainsi, nous maintenant courbés, s'assurent-ils de leur grandeur. Pour essayer de les duper, nous jouons à la marelle, lançant d'infimes cailloux montant au ciel sur un seul pied ou sur un cheval digne de nous faire traverser une allée de sphinx au galop. De la terre hellène, Bellérophon était le plus grand tueur de monstres aux côtés de Persée. Ce fils de Poséidon, à qui les dieux avaient donné le charme et la vigueur, errait, avide du désir de capturer Pégase, monture ailée plus rapide que les flammes de la chimère qui dévorait les hommes. Mais l'animal ne tolérait pas qu'une main humaine le provoquât. Bellérophon s'endormit un soir au cœur du temple de la chaste Pallas Athéna. En songe, elle lui apparut tenant une bride d'or. Pégase lui permettrait ainsi de le monter, la déesse à la noire égide ne lui en dit pas davantage. Bellérophon se leva aussitôt. Tressaillant d'allégresse, il se rendit à la fontaine où l'intrépide cheval, avec coutume de s'abreuver, s'approcha de lui et le saisit. Le mort, dont il pressa sa bouche, modéra sa fougue. Alors, s'élançant sur son dos, Bellérophon, revêtu de ses armes, le dressa au combat. Transporté bientôt avec lui sous un ciel glacé, il accabla la chimère qui vomissait ses flammes, pensant brûler le cœur des hommes. Le cœur des hommes, vous avez des paroles un peu dures pour les hommes. Il y a une réflexion de femme à l'égard des hommes où vous semblez dire que les hommes utilisent les femmes avec leurs caprices. Tantôt ils les désirent, tantôt ils les jettent. Il y a aussi un règlement de compte un peu de la féminité avec les hommes, le cheval étant l'élément de douceur, de pureté, de noblesse, ce que les hommes ne sont pas.
Alors, pas véritablement, dans la mesure où, ici je parle des hommes au sens du genre, hommes et femmes confondus, je trouve que ce sont les êtres humains qui sont ici mis un petit peu au banc des accusés face à la nature, en effet. Et je trouve que ce n'est pas l'homme qui utilise la femme, puis qui la jette. Nous faisons un couple, une union qui marche plutôt pas mal depuis des millénaires, autrement l'humanité aurait dépéri. Non, plutôt que d'attiser la guerre des sexes, je dirais plutôt que c'est l'homme en tant qu'être humain, donc hommes et femmes, qui utilise la nature et puis la jette, utilise les animaux et puis les jette, et en jetant tout simplement une très grande partie de lui-même, du coup, en tournant le dos à ce qu'il est, tout simplement, là d'où il vient, là d'où il est nourri.
En tout cas, les origines de Diane Ducray, c'est le cheval, c'est cette conquête de la liberté, quand bien même il y a l'accident, la chute, la blessure, les séquelles, vraisemblablement, mais il y a un livre sensible, cet hymne à l'amour du cheval, au respect de l'animal en général, mais du cheval, dans sa noblesse, dans sa beauté, dans sa pureté, dans un amour parfois un peu ambigu, car quand Zascandil a des pulsions sexuelles, la petite fille s'en inquiète aussi. Et quand un jeune homme donne un baiser à l'héroïne avec Zascandil témoin, mon Dieu, qu'est-ce que le cheval va en penser ?
Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais une petite fille presque, on va dire. Et le jour où on m'a fait comprendre que c'était un étalon après tout, puis qu'il s'était échappé pour aller voir des juments, j'étais très embêtée parce que moi je le traitais comme un enfant, mais il avait grandi. Et après tout, c'était une bête sauvage quand même. Je pouvais pas intervenir là-dessus. Donc c'était en effet assez... C'était une nouvelle dimension à prendre en compte, on va dire, mais...
Et puis il y a un personnage, alors on va arriver au terme de l'entretien, il y a mon maître, celui que...
Oui, c'est vrai.
Vous appelez mon maître, qui est un personnage un peu énigmatique.
Très, c'est la voix
discret,
de mon maître.
Mais
oui,
qui est
parce
le
que...
maître. On entend son bruit de bottes, il arrive, oui. C'est mon maître.
Ah, toute personne ayant fait... Alors, ça, c'est un personnage qui a bien sûr un double sens. Toute personne qui a pratiqué du sport à haut niveau sait quelle est la relation entre un athlète et son entraîneur. Elle est très forte, elle est paternelle, elle est en même temps très difficile, puisque c'est la personne chargée de vous crier dessus, de vous faire mettre en danger pour dépasser vos limites, quitte à ce que vous alliez à la blessure, quitte à ce que vous alliez à la chute. Et en même temps, c'est en prenant ce risque-là que vous pouvez monter sur un podium. Donc c'est une relation très forte. Et en même temps, comme bien sûr on l'a rappelé dans ce livre, le cheval est une métaphore de la conquête de la liberté. La voix de son maître, c'est bien évidemment le guide intérieur, le guide spirituel qui va vous pousser à ne pas vous arrêter à vos peurs et à les dépasser. Car c'est surtout cela le message de Corpus Equi, c'est que quand bien même on tomberait 1000 fois, on peut se relever à chaque. Et quand bien même on vous dirait que vous êtes condamné, que vous ne marcherez plus jamais ou que vous n'aimerez plus jamais, eh bien c'est faux. Si l'on n'a pas renoncé, il n'y a pas de fatalité.
Merci Diane Ducret pour Cavaler à vos côtés, donc Corpus Equi aux éditions Perrin.
Merci
Bonsoir
beaucoup.
Diane Ducret et merci.
Comme chaque mercredi, le moment est venu de retrouver le traditionnel coup de cœur de notre librairie partenaire, la librairie L'Autre Monde à Avallon. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Lorraine. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir.
Lorraine, un coup de cœur jeunesse ce soir dans Wagon Livre.
Un roman, oui, pour les adolescents.
Il s'agit de Prémonition, une trilogie d'une américaine.
Oui, c'est écrit par L.G. Smith, donc c'est la fameuse auteure qui a écrit la série Journal d'un vampire, plus connue. Là, elle a fait une série qui s'appelle Prémonition, donc c'est une trilogie, le tome 1, Étrange pouvoir, Possédé et Passion. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui dessine et elle se rend compte que tout ce qu'elle dessine devient réalité. Il y a une école qui la contacte pour pouvoir rejoindre 4 autres jeunes qui ont des dons également assez spéciaux dans une école. Donc les 4 se lient d'amitié, il y a une histoire d'amour à l'intérieur et ils se rendent compte que l'école n'est pas forcément ce qu'elle dit. Elle n'est pas là pour évoluer leurs dons mais plutôt pour quelque chose d'un peu plus méchant, on va dire.
Donc en fait, il y a
un mystère derrière.
Il y a un mystère derrière le directeur de cette école et donc nos jeunes gens vont essayer.
Voilà, ils prétendent pouvoir vouloir évoluer leurs dons et au final c'est pas ça et ils vont ensemble de devoir découvrir ce qui se passe vraiment.
Donc enquête, amitié, amour, complicité sont au rendez-vous dans cette
voilà,
trilogie de L.G. Smith.
Tout est là.
Alors, y a-t-il un peu de fantastique ? Oui.
Oui, parce que tout le monde a des dons assez différents. Il y a une personnage principal qui dessine et tout devient réalité. Il y a une autre personne qui arrive à guérir les gens. Une autre qui arrive à contrôler les animaux, d'autres qui arrivent à contrôler tout ce qui est métal, et une autre personne qui arrive à... Je ne sais plus exactement, c'est se lier dans l'esprit des autres personnages, en fait.
Ah oui, d'entrer
télépathie.
En télépathie avec une autre personne. C'est donc une trilogie qui s'intitule Prémonition pour les collégiens et les plus grands.
À partir de 11-12 ans, c'est tout à fait raisonnable.
Donc c'est Prémonition, trilogie de L.G. Smith, et c'est chez Michel Lafond Poche.
Oui.
Merci Lorraine pour ce coup de cœur. Je salue et remercie celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir. Je remercie leur fidélité et leur attention. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 29 janvier à 21h, toujours sur Radion. Nous vous proposerons un entretien avec Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven qui signe avec son père le dictionnaire amoureux Marcel Proust. Donc, on revisitera avec Raphaël Enthoven
En tout cas, dans ses grandes lignes, l'œuvre et la vie de Marcel Proust. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir et à mercredi prochain. Thank you.